par le diable, vos espoirs en un instant balayés par un vent de sable. Sur cette place désarmée, désormais, les soldats montent la garde sur les ruines du palais. Je me languis de toi et je t'attends. Je sais ce sont les mots d'un autre temps, mais le temps m'a joué tant de tout. Je peux bien ignorer et le snober à mon tour. Comme cette pierre au creux de ma main, je veux sentir l'odeur de ton jasmin. Ton nom, tout contre mon nom. Je te devine et pour nous deux, je redessine un autre mot. Emporté par la foule, tout un palais qui s'écroule.
J'avais à l'autre bout du village un vieux cousin à héritage qui était riche, on sait pas combien, mais le malheur, il se portait encore bien. Et malgré sa grande vieuture, il tenait point à sauter le pas. Moi, je me disais, crèvera donc pas. Bon Dieu que les vieux ont la vie dure. À la fin des fin là d'attendre, un vieux soir qui gelait à pierre fendre, et qui faisait partout, noir comme pouet, sans rien dire, je cavale de chez moi. J'entre un coup de vent dans sa masure, j'y tombe dessus, j'y serre le collet, mais le bougre il voulait point, il renaclait. Bon Dieu que les vieux ont la vie dure. À présent que j'ai son héritage, on me respecte partout dans le village. On est prévenant, on est poli, mais chaque fois que je couche dans son lit, pendant tout le temps que la nuit dure, il vient rôder autour de mon chevet pour m'en faire autant que j'y en ai fait. Bon Dieu que les morts ont la vie dure. Bon Dieu que les morts ont la vie dure.
Qu'un jour ça resservira. Au fond du placard, je mets les encombrants. Entre l'ours bavard et le carton de vêtements, il y a une boîte crânienne, la mienne. Il y a une boîte crânienne, la mienne. Je l'avais oubliée, je ne m'en servais plus. Je me suis réveillée quand j'ai entendu.
Bande de cerveau dispo.
Ah.
Bande de cerveau disponible.
Ah, ah.
sauces à servir. Maintenant de cerveaux à servir.
On dit que spéculent les marchands de soda. Mon crâne minuscule, il vaut tellement que ça. L'encéphalogramme plat comme de l'eau plate. C'est le programme, les petites bulles s'éclatent. Dans une boîte crânienne, la mienne. Dans une boîte crânienne, la tienne. Et sur le marché, un deux.
Minou, Minou. Où est-ce qu'il est encore passé, ce maudit chat?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et de la restauration de la Confédération nationale du travail. Animée en direct, sans retenue ni complaisance, chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois, par ses militants sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens pour, pourquoi ? Pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire réuni.
Édito du lundi 17 juillet 2023 du Monde Merveilleux d'après. Pour cette dernière émission de la saison, la culture est au programme. Littérature, spectacle, films et musique. Vous n'avez pas eu droit au traditionnel feu d'artifice du 14 juillet, chers auditeurs parisiens. Qu'importe, des feux de Bengale, vous en avez eu tous les soirs depuis le 15 mars. Il y a exactement 116 ans, trois enfants portugais. Voyez la Vierge à Fatima. Léo Ferré nous apparaîtra-t-il dans ce studio, lui qui nous a quittés le 14 juillet 93 ? Léo Ferré. Et nous l'entendrons quand même. Voilà. Le 14 juillet, c'était aussi la fin des 100 jours d'apaisement promis par Macron. Il paraît que 100 jours, ça peut aller jusqu'à 365, j'ai entendu. Faut pas, oui, non, mais faut pas se fixer à 100.
C'est 100 jours macronien, c'est comme les jours de la Bible, c'est une autre dimension.
C'est jusqu'à ce que tout soit, en fait, il attend que tout soit apaisé. Donc ça peut durer. Ça peut durer jusqu'à la fin du quinquennat, d'ailleurs.
Jusqu'à ce qu'il dégage, déjà.
Donc c'est donc une émission culturelle apaisée que nous vous proposons ce soir. Alors comment concilier l'art et la révolution? Vous le saurez à l'écoute du monde merveilleux du travail. Et tout de suite, on va se passer l'oppression des Léo Ferré.
Tenir des armes dans ces rues que les hommes ont tracées pour ton bien, ces rivages perdus vers lesquels tu t'acharnes, où tu veux aborder, et pour t'en empêcher, les mains de l'oppression. Mmh. Regarde-la gémir sur la gueule des gens avec les yeux fardés d'horaires et de rêves. Regarde-la se taire aux gorges du printemps avec les mains trahies par la faim qui se lève. Ses yeux qui te regardent et la nuit et le jour et que l'on dit braquer sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression. Regarde-la pointer son sourire indécent sur la censure apprise et qui va à la messe. Regarde-la jouir dans ce jouet d'enfant et qui tue des fantômes en perdant ta jeunesse. Ces lois qui t'embarrassent au point de les nier dans les couloirs glacés de la nuit conseillère et l'amour qui se lève à l'université et qui t'envahira lorsque tu casseras les lois de l'oppression. Regarde-la flâner dans l'œil de tes copains sous le couvert joyeux de soleil fraternel. Regarde-la glisser peu à peu dans leurs mains qui formeront des points dès qu'ils auront atteint l'âge de l'oppression. Ces yeux qui te regardent et la nuit et le jour et que l'on dit braquer sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression.
D'entendre Léo Ferré pour... c'est combien de temps ?
93. Donc pile poil
30 ans.
Je suis après.
Ouais. Ouais, j'étais pas né.
Il ment comme il respire. Ah, ah,
ouais.
Eh oui. Non, et puis depuis voilà. 30 ans.
Ouais. Bah, c'est Léo Ferré qui nous interprétait ouais. l'oppression. Mmh. Voilà.
D'actualité.
Bah, oui.
Oui, l'apaisement est terminé, le fascisme entre en scène maintenant. Et puis là pour rigoler.
N'a-t-on jamais été ?
Non, mais on faisait semblant au moins.
Donc autour de cette table ce soir, il y a Michael.
Et bonsoir.
Qui a fait son grand retour il y a déjà plus de mois de mai.
Son
il
coming back.
Il a été motivé par les mouvements sociaux.
Oui,
il est là tout le temps.
Les 100 jours d'apaisement aussi, c'était sympa. Ouais. Il y avait du rond-point et de la casserolade.
Bronzé comme une madeleine. Hein.
Ah, ça, c'est au jardin.
Et Eric aussi.
Salut.
Il nous proposait une petite chronique sur la littérature.
Oui, un petit point de littérature.
Il y a moi-même. Et Bénédicte à la technique.
Bonsoir.
Bravo.
Qui est descendu de sa bicyclette.
Oui. Sans sel.
Sans sel. Bah, c'est les meilleurs. Hein. Ah là là.
Oh, je ferai pas de commentaires.
Que du plaisir. Comme dans le monde
de donc, et, émission littéraire aujourd'hui. Donc, on va commencer par Eric qui va nous présenter. Qu'est-ce que tu vas nous présenter ?
Eh bien, je vais vous présenter. Tout autre chose. J'avais plutôt une lecture estivale, de détente. Et puis, j'ai tombé sur cette. J'ai eu du mal à trouver. Vous avez disparu des bouquinistes. Un bouquin de Kessel. Un bouquin de Kessel et le titre m'a fait réagir. Alors, j'étais déjà tombé sur ce bouquin, mais l'édition originale aux éditions EOS de 1926 et c'est un peu cher pour ma bourse.
Mais ça c'est pas du Kessel donc.
Ah si, c'est du Kessel si.
Oh bah attends. Oh les boules. Oh bah c'est de la merde Kessel.
C'est alors justement puisqu'on est on a commencé par
c'est pour les bourgeois Kessel hein il a ses entrées excusez-moi je ne supporte pas ce bonhomme tu nous amènes un truc complètement pourri
c'est le sujet qui m'intéresse voilà. La traité alors le fait que effectivement Kessel ça soit pas ma tasse de thé alors moi le lion ça m'a jamais rien évoqué. Et puis, ses romans précédents, j'en ai lu trois, dont les deux premiers, où il relate dans le premier ce qui n'a pas été une expérience, mais sa vision romancée de la Révolution d'octobre. Et dans le deuxième... une histoire de militaire, d'aviateur, enfin sans grand intérêt.
Faut vous rappeler aux auditeurs qui ne connaîtraient pas Kessel, c'est vrai qu'il est d'origine russe. Ouais. Voilà.
C'est vrai nom, Kessel ?
Oh, je sais pas, on s'en fout.
C'est le, ouais, enfin, c'est
le tonton de.
Oui,
je sais plus. J'ai écrit là le chant des partisans.
Voilà, et c'est pour faire raccord avec le 14 juillet.
Ah.
Je me suis dit, c'est toujours l'esprit d'à propos dans l'émission. On ne démange jamais, même quand on n'est pas là. Et donc, le chant des partisans avec comment s'appelle-t-il, un écrivain que je déteste aussi.
Qui écrit les rois maudits.
Ouais,
Druon.
Maurice Druon. Alors. Qui est le parent de Kessel par alliance, me semble-t-il. D'ailleurs.
Oui, peut-être.
Maurice Druon, c'est celui qui écrit des trucs pseudo-historiques, c'est ça, non ?
Oui, c'est ça. Ouais.
Enfin, sur base historique.
Oui, il est. Mais c'était un. Bon, aujourd'hui, il n'existe plus. Bien avant ça, il a sorti. Donc, Kessel a sorti. Son premier roman date de 1922. Celui-ci date de 1926. Alors, il a été tiré à très peu d'exemplaires, et ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'il traite, en fait, d'un personnage que j'affectionne particulièrement, qui est MacNo, oui. Nestor MacNo. Dans cet ouvrage, qui est assez bref...
Qui s'appelle MacNo et sa juive,
voilà, je crois que c'est l'a pas nommé. MacNo et sa juive, dans le titre exact, effectivement, traite, en fait, de... Alors, sous des aspects faussement romanesques, d'une Tout simplement de l'antisémitisme supposé de Macno durant sa période
Macnoïste,
où il était en Ukraine et où il a tenté de fédérer les populations paysannes et ouvrières ukrainiennes contre le pouvoir bolchevique et contre la réaction des tsaristes.
Je dirais même c'est pas tant qu'il a tenté de fédérer, c'est plutôt la population qui l'a porté là où il en est arrivé. Je pense pas que c'était sa volonté à lui de mener par exemple la Makhnovchina, en fait, ouais. Il voulait pas que ça s'appelle la Makhnovchina. C'est la renommée qu'il a pu acquérir qui a fait que la population a voulu que ce soit lui qui soit mis en avant, qui lui qui peut sans doute, de par son nom, qu'il fédère tous les une partie de l'Ukraine en tout cas.
Il aurait bien pu ne pas le.
Mais c'est important d'avoir quelqu'un qui refuse justement d'être un leader, ouais, oui. Même si il est un chef de guerre et puis.
Il est un leader malgré lui. Alors c'est un peu difficile.
C'est pas un Che Guevara quand ouais. même. Hein. C'est pas quelqu'un qui veut absolument, qui se présente comme le leader ouais. charismatique.
Non, il est c'est de la Makhnovchina, c'est le principal acteur en quelque sorte de ce mélodrame historique, politique, comme on voudra, et dont traite cet ouvrage. Alors, il y a deux temps. C'est il présente d'abord l'idée c'est que c'est un Russe qui parle un journaliste de son expérience en Ukraine, dans la Makhnovchina. Il s'y est retrouvé en quelque sorte emporté un peu malgré lui, parce qu'il était, lui, c'était un russe blanc, pas makhnoviste, ni. Et il s'est retrouvé vraiment prisonnier. Par un concours de circonstances, alors c'est du roman, hein, il s'est retrouvé finalement épargné, parce qu'évidemment on montre les Ukrainiens de la Makhnovchina comme des sauvages. Hein, c'est un peu la solution de facilité de Kessel, c'est forcément des sauvages puisque
Ils font la révolution. Des gros chapeaux en août, là, ils ressemblent à rien.
Voilà. Ils boivent.
Ils sont des anciens cosaques.
Ouais. Donc pas on peut pas trop les voilà, ça fait des ordres, c'est pas très civilisé, c'est pas très à la limite ce sont des bêtes quoi. C'est un peu comme ça que les montre Kessel, des bêtes, ce qui est toujours très sympathique d'être montré par un écrivain de renom comme étant des bêtes.
Est-ce que ce serait pas ce qu'on appelle de racisme de classe ou quelque chose comme ça?
Je pense que c'est plus un.
C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise.
Si finirait Eric et puis.
C'est de la bêtise totale. On pourra revenir dessus. Je laisserai commenter. Puis bien sûr, puis d'analyser l'ouvrage si jamais vous en avez déjà lu quelques pages. Et puis derrière, donc il y a cette rencontre et puis ce Russe qui longtemps après, il raconte à un journaliste son aventure chez Makhno, donc il lui parle de Makhno, et il lui évoque sa barbarie sanguinaire, parce que c'est un peu ça, il n'hésite pas à décapiter, à trancher les membres au sabre, c'est un peu le folklore, quoi. Les Cosaques, comme disait Fabrice à l'instant, et puis à danser sur les montagnes de corps désarticulés et démembrés. Voilà, c'est un peu, c'est gros, mais ça devait fonctionner peut-être en 1926. Je suis pas sûr parce que l'ouvrage n'a pas connu un grand succès quand même. Et le succès de Kessel viendra après la guerre, surtout après avoir écrit le chant des partisans.
Illustré
des bottes. Ouais,
le sujet de Makhno n'est peut-être pas très vendeur déjà à l'époque. Quoi.
Et je pense que oui, et moi je pense que derrière ça se cache aussi un petit règlement de compte, c'est-à-dire que peut-être ses parents ont-ils quitté la Russie un peu précipitamment, ou la famille a quitté la Russie précipitamment parce que dans une guerre civile, hein, ça a été une guerre civile entre 1917 et 1922, est-ce que ça s'est arrêté? J'en sais rien, c'est la petite question qu'on pourrait se poser. Et donc, forcément, ça a jeté beaucoup de monde sur les routes, des pas contents qui ont été dépossédés, ou alors à qui on a pris des biens qu'ils avaient eux-mêmes spoliés, hein, c'est un peu ça la bourgeoisie. Et donc bon, finalement ça fait des mécontents. Et je pense que c'est un peu un règlement de compte a posteriori d'un mécontent ou d'un descendant de mécontent. Stupide, voilà. Après, c'est plein de lieux communs aussi. Il présente Makhno comme aussi comme un antisémite. Il le dit très très clairement dans l'ouvrage. J'ai pas mes lunettes pour voir de près, mais je devrais pouvoir parce que j'ai marqué ça avec un post-it offert par Fabrice. Donc ça n'a que plus de valeur. Bon, et donc il dit, alors c'est le personnage, donc le témoin qui raconte au journaliste, je vous ai dit combien il abhorrait les juifs, à cette détestation s'ajoutait un mépris, un dégoût sans borne. La plupart des antisémites que j'ai connus l'étaient par raisonnement. Makhno, lui, avait cela dans le sang. Alors déjà, antisémite par le sang, enfin dans le sang, enfin déjà, on sent tout le... tous les lieux communs qui, en 3-4 lignes, était-ce atavisme, éducation, haine personnelle, moyen instinctif, hein, de fanatiser les masses, bien sûr, parce qu'il fallait fanatiser les masses. Alors, il faut absolument faire un leader monstrueux et assoiffé de sang. Je n'en sais rien, mais je n'imagine pas qu'il puisse y avoir massacreur de juifs plus convaincu que lui. Donc, en quelques lignes, il l'a habillé pour l'hiver. Pour l'hiver 1926, bien sûr. Et à cela va répondre Makhno, qui est en France. Et qui va répondre l'année suivante dans Dielo Truda, donc la cause du peuple, et il va démonter les propos de Kessel dans son article. Bien sûr, comme tu dis, Michael, ça reste confidentiel, ça n'intéresse pas le lectorat, et puis c'est
très... la bourgeoisie non plus, voilà, ça n'intéresse pas du tout.
C'est un microcosme, hein. On va dire que c'est un événement dans un microcosme politique.
Est-ce qu'il ne s'adressait pas aux émigrés russes, essentiellement?
Oui, oui, c'est ça.
C'est ça, en fait. Ouais. Hein, au déçus de ceux, effectivement, qui avaient dû quitter leur terre natale, et quitter leurs biens, leurs richesses.
Oui, certains sont partis avec une partie, quand même, de leur richesse.
Oui, non, mais enfin bon, je veux dire...
Beaucoup sont partis de main devant et de main derrière.
Ils ne sont pas restés sur place pour faire la révolution. Mmh. Hein, ils avaient des choses à perdre. Donc c'est peut-être aussi à ce lectorat-là qu'il s'adresse.
Et le problème, c'est que, sachant qu'ils étaient tous en exil, il ne faut pas oublier, hein, que ce soit les anciens makhnovistes, je ne sais pas comment exactement, les anciens makhnovistes, ou les anciens, ou les bolcheviques, les premiers bolcheviques, 126, il y a les premiers bolchos déçus du bolchevisme, hein, qui s'aperçoivent que ça devient une dictature et que finalement, on est loin de l'idéal.
Makhnovistes, il n'y a pas dû en avoir beaucoup. Hein.
Et puis, des anarchistes, et puis des Russes blancs, ce qu'on appelle les Russes blancs, c'est-à-dire que tous ceux qui, bourgeois, pas forcément tsaristes.
Et hein. Les Kronstadt aussi.
Ouais. Et donc, en fait, ce pamphlet, parce que c'est un pamphlet, hein, même si c'est pas dit comme ça, mais ça, pour moi c'est un pamphlet ignoble, puisqu'en fait il est ignoble dans le sens où il travestit totalement la vérité, la réalité historique. Oui.
Là, justement, tu parlais de l'antisémitisme supposé et affirmé de Makhno, mais donne-t-il des faits au lieu simplement de caractériser des...
Non, pas du tout. Traits, bah non, quoi. Puisque c'est tout l'aspect vicelard de la chose, c'est que c'est un roman. C'est donné comme un roman. Mieux, je pense que c'est pas tellement un roman, c'est plutôt une fable. Une fable, parce que c'est relativement court, hein, l'édition originale, il y a 126 pages, mais alors c'est écrit comme ça, quoi. Donc, pour ceux qui ont des problèmes de vision, achetez plutôt la version 1926. Non, c'est plutôt une mauvaise fable, d'un goût douteux, et qui est à charge, qui est totalement à charge.
Donc c'est un pamphlet.
Oui, c'est ça. Pour moi, c'est un pamphlet. Donc... Et puis effectivement, ça fait le pont quand je pense. J'ai entendu à la radio qu'effectivement on parlait de Kessel et puis de Dorion parce que il y a les trop de balles de militaires qui chantaient je sais pas quoi le 14 juillet et qu'on leur devait le texte. Bah, on aurait peut-être dû leur lire ça quoi à la place. Quoi. On aurait peut-être entendu autre chose. Quoi. Donc pour moi. Kessel, il... Ouais. Alors déjà que sa littérature est merdique. Enfin, moi, je la trouve merdique. Hein. C'est de la bien-pensance. Voilà. C'est de la bien-pensance.
Mais c'est pour ça qu'il est, voilà. Il est reconnu et accepté par tous.
Exactement. Et puis, le fait que... voilà, il ait écrit ce texte sur le chant des partisans, qu'il est juif. Alors, juif, effectivement, ça fait aussi. Il y a des époques où il vaut mieux pas être juif, puis il y a des époques où peut-être il vaut mieux être juif. Enfin, je veux dire, et après, ça sert aussi à faire des carrières ou pas. Moi, je pense que ça a joué aussi. Hein. Et aujourd'hui, comme on peut rien dire sur personne, et indépendamment de sa religion, de sa couleur, etc., s'il a écrit des bêtises, bah, à un moment donné, il faut le dire, quoi. Et puis, s'il écrit des pamphlets ignobles, il faut le lire aussi.
Alors, peut-être qu'il... Alors, c'est un pamphlet... je pense qu'il était convaincu quand même de ce qu'il écrivait dans son roman. Il semblerait... Alors, pour avoir lu Alexandre Skirda, qui... Alors, je recommande aux auditeurs de s'ils veulent connaître un petit peu l'histoire de Macno, bah, se pencher sur l'écrivain Feu. Alexandre Skirda, qui écrit sur Macno, la révolution russe, enfin, pas mal de trucs. Il me semble que dans son ouvrage sur Macno, il évoque ce passage, enfin, cet écrit. Et il semblerait que Kessel se soit. Était en contact avec un russe blanc, justement. Donc il a eu, en fait. La version du russe blanc de la révolution ukrainienne. Donc effectivement, alors, sans doute il était convaincu, il l'a pris pour argent comptant, et il en a fait un ouvrage assez merdique, sans aller chercher trop à savoir. C'est pas un travail de journalisme, en fait. Hein. Un travail de journalisme à l'Albert Londres, où tu vas aller fouiller, puis... Non, lui, il a pris les infos d'un mec qui est orienté, quand même, qui a des a priori, des prérequis, et... je te le livre et puis vas-y. Parce que les Russes blancs, en termes d'antisémitisme, je pense qu'ils ne sont pas les derniers non plus. Hein.
Oui, tout à fait. Ouais. Et puis, en fait,
je dis un du Russe blanc, c'est un officier.
Oui, hein. Oui. Son astuce, ça a été de livrer ça sous la forme d'une fable, quoi, d'une fiction.
Oui, il aurait pu appeler ça essai ou quelque chose de plus.
Il n'y a pas de sous-titres.
Plus passe-partout. Là, c'est un roman. Voilà. C'est romancé.
Alors, pourquoi il dit « et sa juive » Macno, « et sa juive »
Parce qu'à un moment donné, alors c'est tout à la fin du livre, et ça commence par le passage que j'ai lu, c'est que lorsqu'il, parmi évidemment, il assassine, il aurait assassiné un rabbin, et avec lui, ce rabbin était accompagné d'une jeune femme qui était juive, dont on apprend qu'elle était juive dans l'ouvrage, et qui aurait, en quelque sorte, sa beauté éclatante aurait séduit Macno et l'aurait épousée. En la faisant, bien sûr, changer de religion. Alors c'est drôle parce que il veut la convertir, il lui parle de conversion à l'orthodoxie. J'ai un doute, en étant Macno, qu'on soit très attaché à l'orthodoxie, vu le temps qu'il a passé au bagne, à prendre des coups de flag, y compris par des prêtres orthodoxes qui n'étaient pas les plus tendres. Hein, j'ai un peu de mal.
C'est un roman.
Y a certains passages qui coincent.
Pas une incohérence près.
Voilà.
Quand tu commences à dire des conneries, il faut aller jusqu'au bout. Hein, ouais.
Donc, oui, après, donc, il est. Alors, c'est en plus, c'est un titre qui est volontairement. C'est pas très sain comme titre.
Oui, ça juive.
C'est pas.
Comme son chien, quoi.
Voilà, est-ce que c'est pas la traduction aussi? Après, est-ce qu'il l'a écrit en français ou en russe? Il était en France. Il aurait pu s'y traduire quand même, je ne sais pas.
Je pense qu'il l'a écrit en français. Après, c'est à voir.
Il y a longtemps qu'on ne s'intéresse plus à Kessel.
Peut-être est-ce qu'il l'a mal fait traduire. Mais enfin, je pense qu'il était suffisamment francophone. On ne peut pas lui retirer que c'était quand même quelqu'un qui avait ses lettres. Hein.
Oui, et puis de toute façon, il était en France, si le titre lui n'avait pas plu, il l'aurait fait changer.
Donc, ça fait partie d'un ensemble de textes, et c'est assez. L'ouvrage n'a pas connu un grand succès, en même temps, qui ça pouvait intéresser, je ne sais pas.
Avec la description que tu viens de nous faire, ça ne va pas en avoir plus, hein, des auditeurs et des auditrices de Radio Libertaire. On vous le recommande, hein, l'achetez pas. Notre recommandation, c'est ne l'achetez pas.
Je trouve ça bien de faire une critique d'un livre qu'on n'aime pas.
C'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, faut tout voir d'un aspect d'une question, quoi, y compris ce qu'on n'aime pas, ce qu'on comprend pas et ce qui est pas bon. Ça permet de faire la balance. Quoi. Effectivement, tu parlais de Skirda, oui, c'est le spécialiste de McNo. Mais bon, il existe d'autres voies pour accéder à McNo. Et celle-ci en est une. C'est bien aussi d'avoir comme ça, de pouvoir mettre dans la balance, parce que ça traduit aussi, je pense, à un moment donné, les a priori qu'on avait sur le monde russe et l'antisémitisme, je dirais plutôt l'antijudaïsme. Je ne sais pas si c'était de l'antisémitisme, mais c'est de l'antijudaïsme, parce que c'est un problème religieux avant tout. Je ne pense pas que les Russes. Alors c'est vrai qu'il y avait les protocoles des sages de Sion, enfin tous ces ouvrages complètement fabriqués à partir complètement farfelus.
Fabriqués par les services secrets du tsar.
Oui, voilà. Alors il y avait, c'était bon. L'époque était quand même, oui, l'époque était plus on allait vers l'Europe de l'Est. On était ancré dans un anti-judaïsme très ancien, très ancien, et vite on est passé à l'antisémitisme qui était à partir des théories sur les races humaines, des trucs comme ça. Donc là, c'est parti très vite en sketch.
Oui, puis il y avait le retour des chrétientés. Oui. Aussi après un petit passage à vide, après la Révolution française.
Tout le 19e siècle, c'était de la réaction.
La franc-maçonnerie qui s'est répandue dans le monde, les chrétientés, on avait pris un petit coup.
Et les églises, surtout, qui étaient en réaction complète, hein, l'orthodoxie plus davantage que les autres, hein, c'était un peu radicaux. Donc bon, je dis, effectivement, on est dans un contexte de ce genre, mais s'attaquer à un personnage comme McNo aussi, c'est ça qui m'a un petit peu interpellé, en dehors de ce qu'on a dit à propos d'éventuels...
sauvagerie.
Souvenir de spoliation de biens éventuels, je sais pas, ou de qu'ils ont tout simplement été chassés. À un moment donné, si tu partages pas la majorité avec la majorité des habitants d'un pays, l'opinion dominante, et que tu veux absolument rester en réaction, forcément, soit tu te bats, enfin, je veux dire, tu t'es imposé, soit. Soit tu te soumets, soit tu t'en vas, quoi. Là, c'est pas compliqué. Et les Kessel sont partis. Est-ce qu'on peut en vouloir à des habitants c'est pas parce qu'il y a une tripotée d'assassins que toute la population est composée d'assassins.
C'est un climat de guerre. Il y avait quand même la guerre contre les Allemands. Oui. Les bolcheviks de l'autre, donc les cosaques,
oui, puis
les nationalistes ukrainiens, donc effectivement,
les pétluristes,
donc ceux qui se trouvent entre tout ça, ouais, qui n'ont pas forcément effectivement, qui n'ont pas intérêt à faire la révolution, à participer. Parce qu'en fin de compte, ce qu'ils veulent pas faire la révolution, c'est-à-dire pas participer au bien-être commun. Hein. Moi, c'est ils se barrent.
Oui, c'est ça, c'est par égoïsme.
Et puis ils font le reproche aux autres, voilà, de ceux qui sont restés, d'avoir massacré. Mais après, c'est des reproches qui ont été souvent... l'antisémitisme, c'est des reproches qui ont été souvent prêtés à Makhno, quand même. Hein. Mmh. Aussi bien aussi par les bolcheviks.
Mmh. Oui, c'est alors, il n'est pas impossible qu'il y ait eu des faits ou des comportements qui pourraient s'assimiler à l'antisémitisme. Mais on est dans un pays où, globalement, c'est un peu, fin du 19e, début du 20e, c'est un petit peu tout le monde, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde baigné dans cet état d'esprit. Pas très sain, certes, mais c'était cette espèce de culture commune. Hein, mais c'était vrai aussi en Pologne, en Hongrie, c'était vrai en Roumanie.
Ont tué le Christ, le répétait-on.
Ouais, oui, mais voilà. Les Makhnovistes, les véritables Makhnovistes, hein, ils ont quand même lutté beaucoup contre justement l'antisémitisme.
Ouais.
En fait, effectivement, alors, dans une armée insurrectionnelle, ça brasse du monde, et il y a des groupes qui s'agrègent. Et ces groupes qui se réclament de Makhno, qui se sont revendiqués de la Makhnovchina, en fait, là, on peut dire que quelquefois, c'était des bandits qui se permettaient d'aller piller ou de régler des comptes. Mais voilà, en revanche, quand les Makhnovistes leur tombaient dessus, c'était autre chose. Là, ils l'ont mangé, quoi. Donc, ils ont ni Makhno, ni la Makhnovchina, on va l'appeler comme ça, hein, le mouvement insurrectionnel ukrainien, n'ont incité à faire des pogroms, faire de la discrimination. Leur but, c'était quand même faire la révolution.
Il n'y avait rien contre les églises dans le mouvement de Makhno.
C'est des ânes. Il est quand même un peu, il est anard, donc effectivement la religion c'est pas son truc. Je me souviens plus, je pense pas qu'ils aient brûlé des églises ou des trucs comme ça.
Ni tué des prêtres.
Arrivé, mais des officiers de l'armée blanche, ouais, ils y passaient. Ouais. Ils étaient fusillés direct dès qu'ils se faisaient arrêter.
C'est normal.
Mais
et en même temps, là, un autre axe du bouquin de Kessel, c'est on voit bien qu'il a plusieurs axes de développement. Alors, ils sont plus ou moins poussés, c'est très court. Hein. C'est effectivement, les Makhno et ses hommes sont des bandits. Mmh. Des bandits. Ah, des bandits. Enfin, je veux dire, des bandits. Donc, sans foi ni loi. Enfin, derrière, il n'y a pas.
On profite de la confusion, de la révolution bolchevique pour semer le chaos, quoi.
Voilà. Alors là, par contre, on est dans l'ordre du déni total, quoi.
On dirait un discours de Darmanin, quoi, face aux écologistes.
C'est face à tout le monde. Et pas qu'aux écologistes, à tout le monde.
Oui.
Mais je pense qu'ils sauf à l'extrême droite.
Oui, parce qu'ils sont bien élevés. Ah, ouais. Ils portent bien la cravate.
Ça fait des années c'est pas lui qui l'a dit, mais ça fait des années qu'ils manifestent et il n'y a jamais eu de problème.
Alors moi, je trouvais ce petit bouquin est paru il y a quelques temps. J'ai trouvé l'occasion, hein, parce qu'il ne va plus être dans les rayons. Pour 2 €. C'est les folios à 2 €. Bon, enfin, là, ça ne vaut pas plus. Hein.
Non, je pense pas, non.
Mais bon, moi, c'est pas... ça se lit rapidement, hein, et ça donne une idée aussi de comment était perçu par un tiers parti le Makhno et la Makhnovchina. Je vois, c'est à mettre au dossier de...
Donc auditeur, auditrice, si vous le trouvez, c'est vraiment pour la curiosité, mais c'est surtout pas un ouvrage, c'est même pas pour le plaisir d'ailleurs, mais c'est surtout pas un ouvrage historique.
Non, il faut le prendre comme il est, quoi, pour un pamphlet.
Une certaine vision blanche, on va dire.
Oui, puis faut, par contre, si tu as une vision historique, il faut l'inclure dans les documents qui font, qui te donnent une approche, mais il faut recouper ça avec beaucoup de sources.
Bon. Donc vous pouvez nous appeler au 01 43 71 89 40. On va faire une petite pause musicale.
Oh, it's all in your mind.
Bravo, bravo.
Et oui, vous êtes sur Radio Liberté, à l'écoute du Monde Merveilleux du Travail, et vous venez d'entendre The Dictators. Eric, tu vas peut-être nous en parler, des Dictators. Alors déjà, moi je vais quand même dire, c'est moi qui ai choisi la version que vous venez d'entendre, parce que Eric nous aimait trouver, je sais pas quoi, un bootleg. C'est un son pourri, c'était la même chanson, What Goes On, oui. Une reprise de Velvet Underground. Mais c'était inaudible. Alors, vous épargner un petit peu...
Enregistré en live à l'époque par Eric lui-même, avec son radio-cassette.
C'était un bootleg, alors c'est vrai que c'était... T'as bien fait, franchement, t'as bien fait. Mais moi, j'écoute ça, même si c'est inaudible, parce que c'est... en fait, c'est la sœur aînée d'un copain, et je vous parle de ça, c'est il y a fort longtemps, qui est allé aux États-Unis, alors je crois que c'est en 77 ou 78, elle avait été étudiante, et elle a rapporté, tout le monde du zéniste, hein, et puis, donc elle a rapporté quelque chose, dont ce, alors c'est un bootleg, oui, le bootleg d'origine, il crachouille déjà même quand tu le mets sur la platine. Et puis moi, je prends mon Topaz, il est passé quand même un certain nombre de fois. Et
il est usé.
Là, ça, c'est pour les auditeurs les plus vieux. Hein.
Bah oui, j'avais un
plus
jeune Topaz rouge.
C'est qu'un Topaz.
Un Topaz rouge. Et c'était à peine les 30-33, ça, ça tenait à peine dessus.
Ça dépend.
Mais bon, mais bon, et puis ça, c'était. Eh ouais, c'était un. Pour moi, c'est. Alors, j'ai réussi à le mettre un petit peu en prise. Sur un truc qui est des prises USB. Et
tu l'as numérisé.
Voilà, c'est ça, voilà. Bon, c'est toujours dégueulasse.
Mais d'ailleurs, quand il m'a envoyé sa musique, j'ai appelé tout de suite. C'est pas possible.
Ah bah, du crachotin écrasé, il n'y a rien de pire, je crois. Ouais.
Et donc, mais c'est un des. Bah, c'est comme ça que j'ai découvert. Alors, pratiquement, un tout petit peu après les Ramones, en fait. J'ai découvert les. Je pensais que c'était en même temps, mais ça devait être après les Ramones que j'ai découvert les Dictators. C'est commencé à faire une culture.
C'est à peu près la même époque.
C'est des cultures.
Alors, c'est
musicales,
pas du. Si je peux dire. On peut dire que c'est du. Après, ça dépend de ce qu'on appelle la terminologie punk. Mmh. Il y en a qui l'attribuent, le punk, aux Américains. C'est vrai que les Anglais, au départ, ils appelaient ce que nous, on appelle le punk en France, ils appelaient ça de la New Wave. Mmh. C'est devenu du punk, avec tout l'attirail, tout le costume. Mais, donc, c'est du punk new-yorkais. Mmh. Mais en fait, ce sont en France, on appellerait ça des post-punk. Au même titre que les Ramones, en fait. Mmh. Parce que ça vient pas d'Angleterre. Ah. Ça vous la coupe, hein?
Ah ouais, non.
Et donc, c'est pas étonnant qu'ils reprennent What Goes On du Velvet Underground. Parce que Velvet Underground, c'est le groupe de John Cale et Lou Reed. Et. Lou Reed, c'est considéré comme le père du rock. Du punk, pardon.
Du punk. Oui.
Faveur punk.
Ouais.
Voilà. Bon.
Bah, c'est évident, ça. Comme tu disais, quand j'ai vu la première fois que j'ai vu leur tronche, ça n'avait rien à voir avec ce que nous, on connaissait des. Enfin, moi, en tant que petit parisien, je connaissais des groupes. Hein, quand j'allais en Angleterre aussi, ça ressemblait à rien de tout ça. Hein. Si les gars avec des plateformes boots, super balèze quand même, grand, avec des cheveux.
On peut parler des musiciens, donc effectivement, le chanteur. Alors là, ça devait être Tandy Chernoff qui devait chanter. J'ai pas reconnu Dick Manitoba. Mais effectivement, le chanteur principal des Dictators, c'est Handsome Dick Manitoba. Voilà, son vrai nom Richard Bloom.
C'est moins drôle.
Bah oui, c'est mieux, Dick Manitoba. Et effectivement, il est blanc, mais il a une coupe afro. Il avait à l'époque, il avait une coupe afro. Ouais. Donc c'est qui détonne un petit peu chez les punks.
Ah, complètement.
Mais vraiment, c'est vraiment le nid de pie, hein, qui a sur la tête. Hein.
Et c'est vrai que ça bah, voilà, c'était un peu le... Alors, bah, il n'y avait pas grand-chose à écouter, il faut dire. Les 45 tours, ça sortait pas mal de ce 45 tours, c'était assez, assez cher. Et puis, tout ce qui faisait du bruit, bah, c'est un truc qui faisait bouger les mômes, quoi. Donc, c'était un peu c'était de l'énergie, en fait. Et c'est, voilà, c'est comme ça que j'ai... Après, j'ai un peu laissé tomber parce que j'écoutais des choses plus...
On va passer 78, de toute façon.
Ouais, plus anglaise. Plus anglaise. Plus anglaise, plus française aussi. Parce qu'il y a pas mal, très rapidement, des groupes qui sont arrivés sur le... en France, c'était plus... Moi, un peu différent. Et je me sentais plus proche d'eux, mais surtout les Anglais. Et puis, les Américains, bah, ils restaient... vu de France, en tout cas, par les Ramones, ils restaient plus grand monde, quoi. Les autres, quand on avait 14-15 ans, on disait, c'était... voilà. Les Dead Boys, un petit peu. Mais enfin bon, c'est pas grand-chose. Quoi.
Alors j'ai évoqué Andy Chernoff. Mm. Andy Chernoff, c'est un des fondateurs avec Ross Friedman des Dictators. Et il était à la basse, mais alors il jouait en short. Oui, dans les concerts, il est en short. C'est ça le côté punk, ouais, new-yorkais. C'est des coupes afro, tu joues en short. En short, mais de sport, quoi. Ouais. C'est vraiment un agrégat de personnages improbables, on pourrait dire, presque.
Bah, c'est l'esprit.
Stylistiquement.
Ouais, c'est ça. C'est pas le
même. Moi, j'ai pas vu avec des plateformes boots. C'est plutôt en basket, short, jean.
Et c'est ça l'esprit en fait qui, ouais, c'est ça l'esprit en fait du punk de cette époque-là, c'est que après c'est devenu un uniforme,
ouais.
Notamment avec l'arrivée du revival.
En Angleterre effectivement il y avait deux stylistes là. Il y avait Michael McLaren et puis je ne sais plus comment ça s'appelait.
Vivienne Westwood,
ouais, qui est décédée, mais qui ont pris justement cette mode vestimentaire, en fin de compte. Mm. Bon, c'est...
Et puis après, c'est devenu des années 80, c'est devenu du clonage, donc c'était moins intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a des groupes comme ça, maintenant avec leur recul, donc longtemps après, je trouve ça vachement frais, quoi.
Ben moi, je suis encore toujours sur mes musiciens. Ouais. Donc, j'étais sur Andy Chernoff. Ben justement, ça fait le lien avec les Ramones, parce qu'il a quand même produit le premier album studio de Joey Ramone. Voilà. Mais bon, après, il a changé d'instrument de musique. Hein. Il a pris la guitare, le clavier. Il est toujours dans le groupe. Ça existe toujours, sauf que Dick Manitoba ne fait plus partie des Dictators. Alors... Juste un petit truc comme ça, puisqu'il a été remplacé un temps, Andy Chernoff, par Mark Mendoza. Mark, The Animal Mendoza. Voilà. Et, bon, c'est pas là qu'il a été le plus connu. Il a été plus connu en intégrant le groupe Twisted Sister. Un groupe de métal qui est né dans les années 80. Mm. Et beaucoup de succès aux États-Unis, vraiment beaucoup. Un peu moins en France, parce que c'est... Alors là, pour le coup, là, ils mettaient des plateformes boots, avec du maquillage et... Bon, voilà.
Et ça met
ils ont un peu changé, parce que maintenant, ils n'ont plus les cheveux longs, parce que c'est l'époque l'époque du hair metal aussi, hein, donc ils ont des coupes de cheveux. Mais ils sont jeunes, déjà, donc ils ont beaucoup de cheveux frisés, longs. Maintenant, un petit peu très très courts. Et puis surtout, ils n'ont plus le même physique. Mais alors, presque tous les membres d'ailleurs de... Alors Andy Chernoff, je ne sais pas quoi il ressemble maintenant. Là, il était plutôt sec. Mais tous les autres, ils sont comme moi. Ils ont pris un minimum de 25 kilos. En très peu de temps.
Un kilo par an, bien. Nickel.
Bon, est-ce qu'on peut quand même parler d'un autre musicien du... Parce que là, c'est une émission culturelle, on en profite.
Bah, hein,
on dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, on va plus avoir le temps. Alors, un des fondateurs des Dictators, c'est quand même Ross Friedman, qui est le guitariste.
Ross the Boss.
Ross the Boss, ouais, voilà. Connu sous le nom de Ross the Boss. Qui est passé un moment en France et qui a joué avec le groupe français Chicken Street, de Fabian Shine. Ils ont produit jusque je ne sais plus, 2018, 2017 en tout cas, je crois. Ils ont sorti des albums quand même. C'est un groupe français, mais qui chante en anglais. Et ensuite, il a quitté Shaking Street, parce que bah, ça splittait aussi, en fait, surtout. En 81, ça splittait, même s'ils ont repris, après, ils se sont reformés un petit peu plus tard. Il a créé avec Joey DeMaio, qui était un des roadies de Black Sabbath, qui s'occupait, en fait, des roadies. Il a été mis en relation par donc Ross The Boss a été mis en relation avec Joey DeMaio par Ronnie James Dio, qui était chanteur de Black Sabbath à l'époque, et ils ont créé Manowar. Alors Manowar, c'est pas de la musique vraiment que vous allez entendre sur Radio Libertaire, parce que c'est du power metal, c'est tiré de l'héroïque fantasy, c'est assez machiste, c'est comme son nom l'indique, Manowar, hein, c'est d'autres hommes de guerre, donc les premiers albums, ils étaient habillés en peau de bête, un short peau de bête, c'est assez cocasse, ça faisait quand même pas mal rire, mais c'est une musique que j'aime beaucoup. Enfin, d'ailleurs, je crois qu'ils se sont séparés cette année, là. Ils ont arrêté cette année. Mais bon, Ross The Boss, lui, a été éjecté en 88, me semble-t-il, et puis il a participé à plusieurs groupes, donc il n'a jamais quitté Shaking Street, et il a créé son propre groupe qui s'appelle Ross The Boss. Voilà, c'est du Manowar, mais c'est pas Ross The Boss. Et dans le groupe actuel, et j'en termine avec ça, parce que ça avance, il y a quand même Albert Bouchard, qui joue actuellement dans les Dictators, donc c'est un batteur, qui est issu du Blue Oyster Cult. Voilà. En fait, c'est un microcosme. Hein, j'aurais sans doute des trucs à dire sur Albert Bouchard.
J'espère qu'il n'est pas superstitieux, parce que les batteurs chez les Dictators, c'est tout une fin.
Oui, il y a quand même deux batteurs qui sont décédés en 2018-2012. Ils sont pas nés. Il y en a un qui est Stu Boyking en 2018 et Richie Titler en 2012. Bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire.
Bah, c'est bien. Il faut que ça. C'est très culturel, hein.
Bravo,
hein. Ouais, beau dit.
Donc, on va passer à Michael.
Ouais.
Tu nous as dit que ton intervention était courte, c'est pour ça qu'on a pu tirer sur la musique.
C'est pas très très long, ouais. Donc, moi, j'aurais vous parler du Larzac. Le Larzac historique, la lutte du Larzac des années 70, ça a duré 10 ans, jusqu'en 81, 2, 3. Jusqu'à ce que Mitterrand dise « Ouais, ok, d'accord, on ne fait pas d'agrandissement de la caserne. » Parce que on a un copain au syndicat CNT 89 à Vallon qui organise avec sa mère dans le cadre du Festival des Contes Givrés en Bourgogne. Alors ce sera en octobre, hein, c'est le 12 et le 21 octobre.
Vous avez le temps de vous préparer.
Vous avez le temps de vous renseigner. Mais commencez à vous inscrire tout de suite. Dès à présent.
Achetez dès à présent vos billets de train.
Les Contes Givrés en Bourgogne. sur le Larzac, terre de lutte. Il y aura un film, ce sera le 12, et un spectacle avec un homme qui fait un spectacle. Le film est un film documentaire de Christian Rouault, qui est assez connu dans le milieu. Il a fait pas mal de choses. Il a fait, je vais vous dire les films qu'il a fait, s'il en a fait beaucoup.
Il va nous le dire.
Il a fait L'Élipe, l'imagination au pouvoir. Il est connu celui-là. Hein, il est déjà
dit quelque chose.
Ouais. L'Élipe. Hein, bah oui.
Ah bah oui,
la lutte d'Élipe, qui sont repris, etc. Il a fait Le Sujet, ça c'est plus côté sociologique, c'est-à-dire la prégnance de l'observateur sur les personnes qui l'observent. La pollution de l'observation, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'il a fait ? L'eau, la terre, le paysan, un documentaire qu'il a fait en 2006. Et il en a fait plein. Bagade, qui est assez connu aussi, moi je ne connaissais pas. Retour au quartier nord en 1992, c'est un de ses premiers. Paysan et rebelle, un portrait de Bernard Lambert. Il est connu Bernard Lambert aussi. Non, vous ne connaissiez pas
Je ne connais pas Lambert. Tout le monde. Hein, c'est sorti de Macron du Ruti, moi je ne connais plus personne.
Enfin, voilà. Donc, il présente son... Je peux vous dire un petit mot de qui c'est, le Christian Rouault. Donc, il est né en 48, il a 75 ans. Papa cheminot, maman travaille à la maison. Il obtient le CAPES en 71, au moment où ça commence à chauffer au Larzac. Il est prof de français en banlieue parisienne. Après, il se trouve une petite planque qui l'intéresse certainement au Centre Régional de Documentation Pédagogique de Créteil, où il s'occupe de la formation de l'audiovisuel des enseignants du second degré. Ça a dû lui changer d'enseigner à des petits-enfants de banlieue, j'imagine. Et il publie un roman, La salle des profs, écrit S-A-L-D-E-P-R-O-F, et un premier court-métrage en 85, plus poète que moi. Bon, finalement, il en a marre de l'éducation nationale, et il devient un directeur de production, et réalise son premier film pour la télévision, Retour au quartier Nord. Voilà, après il tourne Bagade, qui parle de la musique bretonne. La Bagade, c'est un type de musique bretonne. Et il aime beaucoup la Bretagne, hein, voilà. Et préoccupé par la question du rapport aux personnes filmées dans le documentaire, il réalise en 1996 un court-métrage de fiction, Le Sujet, multiprimé dans des festivals. Voilà, il travaille pour la télé aussi, etc. Et puis, en 2011, donc, sort son film Tous au Larzac.
40 ans après le...
Voilà, 30 ans après... Enfin, 40 ans, ouais, 30 ans après la fin. Ouais. 40 ans après le début, voilà. Alors, je vais vous lire l'intention de l'auteur. Le paysage comme personnage. C'est assez sociologique, son approche, moi, j'aime bien. Quelques hameaux, une centaine de fermes, à l'architecture très typée, bâties en pierre de cause, des maisons aux voûtes superposées et aux toits de rose. Ah, c'est poétique. Certaines de ces fermes superbes, avec d'immenses bergeries qui évoquent des nefs d'églises romanes. Le paysage est bosselé, un peu lunaire, parsemé de roches fantasmagoriques travaillées par des siècles d'érosion. Les vents, quasi permanents, la neige et les grands froids d'hiver, le temps souvent frais, les soirs d'été, après des journées accablantes de soleil, font que ces espaces cossonards sont décrits par les uns comme inhospitaliers et par les autres comme splendides et étrangement attachants. Voilà. Alors, une terre austère, en tout cas, qui fait irrésistiblement penser à des images de western. D'ailleurs, Pierre Burguillère évoque avec délectation, dans la venue de Petite Plume, actrice indienne que Marlon Brando avait envoyé à Hollywood refuser son Oscar pour attirer l'attention sur le sort fait aux Indiens d'Amérique et qui était passée sur le Larzac en 1973, en compagnie d'un autre Indien, elle était montée sur un rocher à l'entrée de la Blaquière, s'était assise en tailleur et contemplant le paysage avait dit « C'est chez nous ». On en parlait tout à l'heure, ici c'est chez nous. On va y revenir. La lutte du Larzac, au-delà de la menace sur l'outil du travail des paysans, c'est l'histoire de la défense d'un territoire, d'un espace de vie, d'un paysage. Il suffit d'arpenter un peu le plateau pour comprendre à quel point ses habitants, installés là depuis des générations ou nouveaux venus, ne pouvaient y renoncer sans se battre. Rarement un conflit social aura été à ce point ancré dans une terre. Rarement un lieu de lutte aura attiré tant de gens sur quelques kilomètres carrés. Trente ans après, les lieux portent encore les stigmates de la lutte. Galdarem Lolalzac, peint sur une citerne rouillée. L'armée tue sur un bâtiment du camp. La trace des écussons, des régiments que les soldats peignaient sur les murs de la ferme de Cavaillès pour tromper leur ennui. L'arbre où ils avaient installé leur mirador est encore debout. Ici, le paysage réel nourrit le paysage mental. Il fabrique de l'imaginaire, tant et plus. Il est à mes yeux un des personnages du film. Gilles Deleuze disait « Le système nous veut triste et il nous faut arriver à être joyeux pour lui résister. » Donc Christian Rouault voulait que Tous au Larzac soit un film gai et malgré les enjeux dramatiques, un film léger. D'abord parce que la lutte est souvent réjouissante, c'est particulièrement vrai pour celle du Larzac, dont certains épisodes font irrésistiblement penser à Guignol et Niafron, Rossan le gendarme. Nombreux sont d'ailleurs les protagonistes qui avouent le plaisir qu'ils y ont pris. mais surtout parce qu'ils en font le récit avec beaucoup de truculence et d'humour. Donc il va...
On est loin de Sainte-Soline, hein.
Non, parce que là, c'est des gens ancrés. Alors, Sainte-Soline, il y avait aussi des gens du coin qui luttaient pour pouvoir avoir de l'eau dans les nappes après. Mais ils ne sont pas passés à la télé, évidemment. Hein. Et donc, en fait, il y a une série de clichés, notamment de personnages, des personnages qui ont fait la lutte du Larzac. Alors, le Larzac, c'est quoi ? C'est 103 paysans. Personne, on va dire, essentiellement paysans, sur 107 paysans qui étaient là dans le coin, qui ont signé un accord entre eux en disant on ne vendra pas à l'armée, on garde nos terres, et petit à petit, au fil des ans, par des apports de gauchistes, de maoïstes, de GOP, de je sais pas quoi encore, ont constitué une société civile immobilière du Larzac, un peu spéciale, où c'est l'usage qui fait la propriété. C'est-à-dire, tant que le paysan cultive, c'est sa terre. Le jour où il prend sa retraite, il la laisse à un autre, sans plus de formalité. Voilà, donc c'est assez révolutionnaire.
C'est le droit d'usage.
Le droit d'usage, exactement. Sachant qu'il y a beaucoup de terres qu'ils ont pris en fait à l'armée, qui avait déjà racheté tout ce qu'ils pouvaient à ceux qui voulaient bien vendre. Et donc il y a des personnages comme Léon Maille, qui est un paysan du coin, et les Burguières, Pierre et Christiane Burguières, qui sont pas du coin, mais qui sont venus s'installer pour faire du mouton, par exemple. Marisette Tarlier. T'es assez connu dans le milieu. Ah, je te fais l'inventaire, tu m'as parlé des guitaristes tout à l'heure. Je parlais des gens qui font des luttes au Larzac. Hein. Voilà, Michel Courtin.
Mon truc, je vous ferai les prochains.
Un certain José Beauvais qui est venu s'installer avec sa femme et un petit enfant dans une ferme complètement abandonnée, sans eau, sans électricité, à 800 mètres du camp. Voilà, Christian Roquerol. Enfin bon, il y a une dizaine de personnes comme ça, et qui racontent leur lutte et la construction de la lutte. Donc, voilà. Donc ça c'est le film, petit peu. Si vous avez des questions sur le film.
Non.
Non. merci.
Donc ça, il va être diffusé.
Donc ce sera le 12 octobre à 18h au cinéma d'Avallon. Voilà, c'est le cinéma qui fixe le prix, donc c'est pas les organisations. En présence du réalisateur Christian Roux.
Donc c'est suivi d'un débat, j'imagine.
Qui y aura un petit débat ensuite à l'issue. Donc c'est à 18h, ça dure une heure et quelques le film, 1h20 je crois. Donc 22h on a la maison couchée, quoi, c'est bien. Et on a passé une bonne soirée. C'est super. Donc ça, c'était quand ? C'était le jeudi 12 octobre, voilà. Et le samedi 21 octobre, il y a le spectacle de Philippe Durand.
Spectacle vivant ?
Spectacle vivant, voilà. Donc il sera là, puisqu'il est vivant, aussi. Hein ? Et Philippe Durand, moi, je vous en dirai peut-être un petit peu moins, mais c'est quelqu'un aussi qui est un ancien comédien à la base et qui est devenu metteur en scène et comment on appelle ça. Enfin, il fait le spectacle complètement. Quoi.
Réalisateur.
Réalisateur, ouais. Metteur en scène, il fait tout. Et qui s'est attaché aussi aux luttes sociales. Christian Roux, lui, c'était, il avait parlé des LIP, la lutte des LIP, et lui, il a parlé de, j'ai oublié le nom, mais c'était Unilever qui avait une entreprise de savonnettes en France, et dont les ouvrières, les ouvriers sont montés en SCOP, et il a fait aussi un spectacle là-dessus, un documentaire là-dessus.
Il y a un lien entre les deux, en fin de compte. Voilà.
Oui, il y a l'intérêt des acteurs. C'est-à-dire, c'est pas pour des idées, des grandes idées. Les grandes idées tournent autour des acteurs, mais le principal, le centre, c'est vraiment les acteurs des contestations ou des actions d'émancipation. Larzac s'intéresse à ce qui se passe aujourd'hui sur le plateau, la vie de ses habitants et celle de l'outil de gestion collective des terres agricoles auxquelles il participe. Dans un mélange d'intimité et de réflexion sur notre rapport à la propriété, sur l'agriculture paysanne que les Larzaciens entendent mener, de questions sur le fonctionnement du collectif, Larzac est le reflet de 40 ans d'expérience de cette gestion collective exemplaire. Rien ne sera plus, jamais plus comme avant. Le tarif est au chapeau, il y a 150 places, donc vous pouvez réserver.
Vous pouvez réserver.
Vous pouvez réserver.
Vous devez.
Auprès de... Je vais vous le dire tout de suite.
Il a perdu sa fiche.
Ah, j'ai ma fiche, c'est là, voilà. Alors, c'est l'échoppe des figuiers. Donc, échoppe avec deux P, des figuiers, @posteo.net. Voilà, si vous voulez envoyer un mail pour réserver avec vos coordonnées. Et on vous expliquera comment faire. Voilà, donc c'est à 20h, le 21 octobre, au marché couvert, co-organisé par l'échoppe des figuiers, donc avec les cousins et cousines de la vallée, dans le cadre du festival régional des contes givrés.
Voilà, donc si les auditeurs veulent passer quelques petites vacances, leur cinquième semaine dans le Larzac,
voilà.
En octobre, rappelle les dates.
Alors, à Valence et en Bourgogne, hein, donc c'est le 12 et le 21 octobre.
Et ils parleront du Larzac.
C'est les portes du Morvan. Ouais. Mais c'est un lieu aussi où on va bientôt se révolter. Certaines personnes commencent à acheter de la forêt pour la protéger. Parce qu'en ce moment, les forêts sont mises à nu. C'est horrible, quoi. Le bulldozer passe, il ne reste plus rien. Derrière, on replante des sapins de Noël ou de l'épicéa qui pousse vite pour faire du bois en 30 ans. Mmh. Ils ont une obligation de, comment on appelle ça, de biodiversité. Donc, ils plantent 20% d'un autre épicéa. Comme ça, c'est la biodiversité là, tout va bien.
Et bref, le rendement va mieux aussi.
Des belles forêts qui étaient...
Et avec le réchauffement climatique, on va leur foutre le feu. C'est pour ça que ça brûle bien, les forêts. Hein, c'est des arbres qui sont bien... Ça se propage bien.
C'est encore un peu humide, le Morvan, mais quelques degrés plus, et puis ça va brûler comme le reste. Ça va venir.
Si deux ans, c'est bon.
Alors que normalement, c'est du chêne, du hêtre, du charme, des bouleaux, des...
Des frênes.
Des marronniers. C'est pas des marronniers qu'on mange les machins, là. Ça m'échappe.
Les châtaigniers.
Les amandiers. Non, pas les amandiers. Je sais. Les châtaigniers. C'est ça que tu disais Les châtaigniers. Enfin, bon, maintenant, c'est du sapin. Donc, il y a des personnes qui rachètent des terres.
Sans le sapin.
Je pense qu'au niveau du syndicat, à la rentrée, on va commencer à s'intéresser à cette question-là. La question de la défense du territoire, parce que si on nous enlève notre forêt, les nuages vont passer tout droit. Mmh. Voilà ce qui va se passer. Et moi qui ai mon petit jardin avec mes tomates et mes cucurbitacées, des fois je vois passer les nuages, j'aimerais bien qu'il pleuve. Puis, qu'y a-t-il ?
Il y a une acidité dans les sols aussi.
Oui, l'acidité, l'eau coule plus vite.
Voilà. Ça ne pénètre pas, n'alimente pas les nappes phréatiques, c'est un cauchemar.
Sur les aiguilles, l'eau glisse. En plus, c'est très, très vallonné là-bas, donc c'est une catastrophe. Non.
Alors, pour la petite histoire, c'est Unilever, c'est les Fralib.
Oui, voilà.
Les Fralib, qui sont battus entre 2010 et 2017.
C'est ça.
Contre Unilever, qui fabriquait.
Des savonnettes et des parfums.
Et leur nombre de jours de lutte était 1336.
Ouais.
Hors micro, on avait parlé de 1336, mais ça correspond au nombre de jours de lutte.
Ah oui, voilà. C'est pour ça qu'ils ont appelé leur scope après 1336. Ouais,
exactement.
Voilà. Je n'avais pas trouvé pourquoi en faisant mes recherches. Ouais. Oui, impressionnant. Hein. Musique ? Musica.
Musique.
quasiment dans les mêmes parages, et tous les ans je trouve du changement dessus mon passage. À tous les coups, c'est pas le même chien qui gueule à mes chausses. Et puis voyons si je me souviens, voyons dans ce coin de Beauce, il y avait dans le temps un bio grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, Aster n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerait main? En Beauce, vous les connaissez pas. Pour que rien ne se perde, Mangerin, on ne sait quoi ces gars-là. Ils mangerin de la merde. Le chemin, c'était à leur jugé la bonne terre perdue. À chaque labour, ils l'ont mangé d'un sillon de charrue. Il y avait dans le temps un bio grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, Aster n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerait demain? Ont grossi leurs arpents goulus d'un peu de glaive toute neuve, et le pauvre chemin en est devenu mince comme une couleuvre. Et moi qu'avec lisse sous les cieux pour poser guibole, le chemin à tout le monde, nom de Dieu, c'est mon bien qu'on vole. Il y avait dans le temps un bio grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, à sœur n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerait main? On se met du blé sur terrain qui retire à ma route. Et si je le en demande un bout de pain, il m'envoie faire foutre. Et c'est peut-être ben pour ça que je jouais, à mesure que ce blé monte, les épis baissent le nez devant moi, comme s'ils avaient honte. Il y avait dans le temps un bio grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, à ça n'est pas gris et blanc. Sur le dos dit que je passe, je veux plus qu'on serre ainsi les flancs. Car moi je veux de l'espace, où ce qu'est mes allumettes à son. Au fond de ma peintière, ah, je ferai ben reculer vos moissons. Allez, mange terre.
cheminot, cheminot, chemine. Ma sœur n'est pas plus grande que ma main. Pourrait bien les agir demain.
Et vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire, Le Monde Merveilleux du Travail.
89.4.
Oui. Et vous venez d'entendre Gérard Pierron qui interprétait les Mangeux de Terre de Gaston Couté.
Ah, bien.
Voilà.
Ah oui, c'était pour moi la musique, celle-là.
C'était pour toi la musique.
C'est gentil.
Oui, ouais, c'était.
J'ai demandé une musique de paysan.
Peut-être pas tout à fait adapté, mais. Tu voulais du paysan et de.
Paysan, voilà, la terre, que ça colle aux bottes.
Voilà. Bah, donc on va pas présenter Gaston Couté non plus, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps.
Suffisamment.
Suffisamment. Bon, Eric nous a parlé d'un livre qui a été très peu lu. Moi, je vais vous parler d'un film qui a été très peu vu.
Ah, c'est le film de BHL, non, non. Il a fait 600 entrées.
C'est pas pour les mêmes raisons. Voilà. Alors moi, c'est un film réalisé collectivement par une équipe de techniciens et d'artistes et d'ouvriers.
Ah, ça doit être bon, alors.
Comme l'annonce le bon titre par lequel le film s'ouvre, c'est un film à sketch. C'est « La vie est à nous », réalisé entre mars et avril de 1936, supervisé par Jean Renoir. Donc, c'est pré-Front Populaire. Mais on s'englobe, c'est... Jean Renoir a confié à ses jeunes assistants... on peut donner deux, trois noms. Jacques Becker, hein, oui. Henri Cartier-Bresson, Jean-Paul Lechanois, qui n'est pas sous ce nom-là.
Que des saxophonistes très connus.
Mais en fait, ils sont connus. Ouais. Oui. Ceux que je cite, là, ils sont... Oui. Voilà. Bon, il y avait Jacques Brunius aussi, je dirais quand même tous. Pierre Unique, Maurice Lim et André Woboda, que je ne connaissais pas, et Marc Morette. Et ça aurait été intéressant de pouvoir s'arrêter sur Marc Morette. Il a un parcours libertaire qui est passé pas que par les libertaires. Quelqu'un de ça, tu connais Eric ?
Non.
Non. Donc ce film, c'est une commande du Parti communiste français pour préparer les élections législatives de mai qui aboutiront à ce qu'on nomme donc le Front Populaire de 1936. Alors pour résumer le film, un instituteur expose à ses élèves la grandeur culturelle et la richesse économique et technologique que représente la France. Je vais assez vite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Et à la sortie du cours, la moue de l'instituteur ne laisse pas de doute sur l'inanité du programme scolaire imposé. Voilà, les élèves d'abord conquis conviennent par force de comparaison avec la vie sociale et économique de leurs parents que ce dont on les instruit ne correspond pas à leur propre réalité. Voilà. Et se pose cette question, on voit donc toute cette richesse produite en France. Donc c'est un film à sketch, donc le premier on voit des patrons assez caricaturaux, un petit peu forts comme moi, qui pour faire face à la crise décident de supprimer des emplois dans leurs usines, en commençant par les plus vieux. Voilà. Le deuxième, c'est des paysans plutôt conservateurs qui sont confrontés à un huissier qui procède à l'inventaire et à la saisie des biens mobiliers de la famille. Et le troisième, un jeune diplômé en électricité qui recherche un emploi dans son domaine, mais qui sera amené à accepter un boulot de manœuvre, qu'il perdra très rapidement d'ailleurs. Alors ce film est réalisé à un moment où les Français crurent vraiment qu'ils allaient s'aimer les uns les autres. On se sentait porté par une vague de générosité, nous dit Renoir lui-même dans son écrit « Ma vie, mes films » paru en 1974. Alors, pourquoi le Parti communiste ? D'abord parce que c'est sa commande et que parmi les tendances politiques de l'époque, entre le fascisme et le communisme, Renoir prend position, je cite encore, pour le communisme, parce qu'il lui sent que les tenants de cette doctrine ont une conception plus honorable de l'être humain. Voilà, tiré du même ouvrage. Alors, je fais quand même un petit rappel historique, vite fait. C'est le 31 octobre 1922, Mussolini est au pouvoir italien. Il y a le crack boursier de... Crash, on dit plutôt.
Crack.
Youplaboum. Ouais. Boursier américain de 23, mais qui va toucher la France et l'Europe à partir de 33. En 1933, c'est Hitler qui accepte de pouvoir aussi en Allemagne. Et le 6 février 1934, les ligues fascistes se déchaînent, portées par l'exemple nazi. Voilà, dire ouais. Ça comme ça. Donc c'est donc dans ce contexte de menace hitlérienne que Renoir décide de mener le film pour le PC, évidemment. Le film fait la part belle à tout l'appareil Coco.
Vas-y Coco.
Ah oui. Alors on y voit le journal L'Humanité, hein, où est présenté, enfin qui est présent, et on y voit apparaître des communiqués de la CGTU. Voilà. Alors ça parle pas forcément aux gens, mais bon, bah, la CGTU, c'était une scission de la CGT, mais qui a été au départ syndicaliste révolutionnaire, et puis pris en main quand même par les bolchos. Les militants locaux organisent. Alors, j'ai évoqué effectivement les trois premiers points, hein, les licenciements des plus vieux dans les usines, les paysans, et les jeunes diplômés. Donc, les militants locaux organisent une grève réussie dans l'usine pour que le vieil employé retrouve son emploi. Et oui, c'est un petit peu. Alors, c'est pas les syndicats qui font la grève, c'est la cellule du Parti communiste. C'est commandité par le PC, n'oublions pas. Les militants ruraux, eux, rachètent à moindre frais, aux enchères, les biens des paysans qui leur seront restitués, au final, non sans avoir au passage menacé de gourdin les éventuels acquéreurs bourgeois intéressés par ces enchères. Oui. Mais voilà, quand même, il passe autour des vaches.
Il y a les enchères à la bougie, puis il y a l'enchère au gourdin aussi.
Et voilà. Chose. Et puis quand il y en a qui veut s'exprimer pour lever la main, tac, on lui montre le gourdin. Et puis du coup, ils achètent à peu de frais. Les, voilà, ça coûte 2 francs, les meubles, tout ça, les vaches, les chevaux. Et les paysans sont contents. Ils étaient un peu réactionnaires, du coup, parce qu'ils n'aimaient pas trop. Hein. C'est le neveu de la famille qui faisait partie de la cellule communiste, assez mal vu. Politicard, quoi. Et je pense qu'après, il était mieux vu, forcément. Hein. C'est comment ils sont, les paysans. Ils nous en ont parlé, là. Crevard. non, enfin, voilà.
Volem rempart al pays.
Voilà. Et enfin, le jeune diplômé est pris en charge par une cellule du PC qui lui assure la subsistance sans contrepartie. Ouais. Alors, l'électricien conscient, ou devenu conscient, participera à la vie de la cellule en s'occupant de l'éclairage de la tribune des partisans. Tout est bien qui finit bien.
Oh.
Voilà.
Vive le communisme. Alors,
le propos est plutôt plaisant, puisque la solidarité ouvrière l'emporte sur la cupidité individualiste. Mais comme c'est une commande du PC, il faut aussi supporter les captations de discours des ténors du parti de l'époque. On a Marcel Cachin, je commence par les plus connus, hein. Maurice Thorez, qui saura dire pendant les journées de juin, il faut savoir arrêter une grève.
Bah. Voilà. Ah ben raison,
bravo.
Paul Vaillant-Couturier, je crois que c'est un peu à son initiative que le film s'est fait. Jacques Duclos, et puis alors, d'autres que je connaissais pas, Martha Desrumaux. Marcel Giton et Renaud Jean. Voilà. On voit tous ces gens qui font leur petit discours. Voilà, avec derrière les portraits de Lénine, Staline et je ne sais plus qui.
Ah,
Marx,
Marx,
Marx, Marx, Marx, Marx, Marx, oui.
Pas Rougeau, hein.
Pas
Robert. Robert Marx.
Alors il y a aussi, dans le film, il y a des images d'archives qui nous montrent les défilés des Croix de Feu, Mussolini, Hitler et pour ce dernier, un montage sonore remplace le discours du Führer par des aboiements de chiens. C'est drôle. Donc quand je vois, bon, c'est une façon plaisante de tourner en dérision le dictateur. Voilà. Et d'ailleurs moi j'ai retrouvé une idée similaire comme ça dans un des nombreux films de Johnny Westmuller, dans celui de 1943, Le Triomphe de Tarzan, dans lequel des opérateurs radio tentent d'entrer en communication avec le méchant colonel nazi, qui s'appelle Richard, et qui est échoué dans la jungle africaine. Mais Cheetah, la guenon, s'est emparée du micro et du poste de radio et pousse ses piaillements. Je ne vais pas vous le faire. Et l'opérateur allemand tend l'écouteur en général sur le territoire germanique, croyant parler à Richard. Et puis celui-ci s'exprime « Idiot, ce n'est pas le colonel von Richard, c'est notre Führer !» Alors, on ne peut pas dire que les Américains ont pompé directement d'après le film, sorti très tard, et très peu vu. Mais comme Renoir a aussi tourné entre 1943 et 1947 aux États-Unis, Il a peut-être
influencé,
hein, donné l'idée.
Ouais, Tarzan, Tarzan avec Weissmuller, c'est dans les années 40, non ?
Ça 43. Avant. Ah non, mais c'est avant, c'est 43, 30, 47, ça a commencé en 31. Ah, commencé, oui, il y a pas mal, il y a une douzaine de films.
Ouais, tu l'as arrêté de pisciner.
Voilà. Et, bon, donc, bah, en fait, très peu de Français auront vu La vie est à nous. Alors, c'est un film de 62 minutes, hein, c'est pas très long. Et parce qu'il reçoit son visa d'exploitation des autorités françaises qu'en 1969. Ouais. Donc en fait...
film de propagande, quoi.
En 36, il sera projeté que dans des cellules et meetings communistes, enfin, du Parti communiste, comme à la Bellevilloise.
Ouais, mais il y avait du monde chez les cocos à l'époque, quand même.
Il y avait quand même du monde, mais
pas
bon,
maintenant. Hein.
Mais eux, ils étaient déjà convaincus. Ouais. Et dans des réunions privées organisées par Ciné Liberté, la coopérative créée par Jean Renoir, justement, Henri Janson, Françoise Roset et sans doute d'autres. Et puis, c'est pas sans difficulté, puisque les tentatives sont faites par la police d'empêcher la projection, les projections, voilà. Même lorsque le Front Populaire sera au pouvoir de mai 36 à avril 38.
La police veille.
Voilà. Alors c'est un film qui s'inscrit dans un, en fait, on va pas dire un diptyque, mais Renoir a fait deux films sur le front. Non, La belle équipe, c'est Julien Duvivier, semble-t-il. Déjà, d'une. Et puis c'est un film qui est aussi qui a été fait avant le Front Populaire, mais qui est comme ça parle d'ouvriers. On le dit identifié au Front Populaire, mais c'est pas un film du Front Populaire.
C'est antérieur.
Non, c'est sorti en 36. 36. Mais oui, il est un peu antérieur. C'est le hasard qui a bien fait les choses, en fait. Mm. Bah, après, c'était la tendance de l'époque, hein, je pense. Alors, justement, alors, dans ces ces films sur le Front Populaire, en revanche, Renoir va en faire un autre. En fait, il en envisageait un qui aurait dû être fait sur les mets. Enfin, sur les résultats électoraux et puis la victoire du Front Populaire, donc de mai, et les journées de juin, de grève de juin. Mais comme son film n'est pas sorti, il a bien dû se douter que ça n'allait pas sortir non plus.
Ça reste à l'état de projet ou...
Donc, hein,
ça reste à l'état
non,
de projet.
Non, en fait, il a, c'est comme ça qu'il a... choisi de tourner La Marseillaise, donc... Le film La Marseillaise en 1937, et c'est la Révolution française, c'était l'époque qui offrait le plus de similitudes avec celle qu'il souhaitait évoquer.
Et puis ça vexe personne, ça c'est bien.
Oui, voilà. Mais bon, le but c'est de montrer aussi des gens qui sont volontaires, on voit même des. Je crois que c'est devant le palais des Tuileries, la foule qui jette des pierres, des tout un tas de trucs sur les défenseurs du palais des Tuileries où est réfugié le roi. Hein, ça vous
Trois
évoque pas
Suisse,
ça vous évoque Suisse. Pas des trucs ça, hein, jeter des cailloux et foutre le feu
et puis taper sur des chaudrons.
Est-ce qu'il
sur des tambours, hein.
Est-ce qu'il défonçait des portes à coups de carriole des fois? Non, ça devait se faire,
c'est pas impossible.
ça peut. Bon, voilà, La vie est à nous. Donc c'est un film qui s'inscrit dans la lignée des films de propagande. C'est un film à message qui épouse le point de vue précis de la lutte des classes et un peu du Parti communiste quand même.
Et de l'antifascisme.
Mais contrairement à d'autres que je vais citer, donc la grève des Einstein en 25 ou octobre, l'autre film octobre en 1928 pour l'URSS. Le triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl en 1934 pour les nazis. Les forces occultes de Paul Rich, 1943, pour Vichy. C'est des films que j'ai vus. Hein. Et le plus beau aussi, ou appelé aussi le plus dignement, d'Akira Kurosawa, 1944, pour l'Empire du Soleil Levant. Donc, contrairement à cela, c'est pas le fruit d'une doctrine politique déjà instituée et déjà opérationnelle. Faisant plutôt tantôt l'apologie du pouvoir, qui tronque les origines de la prise du pouvoir, qui incite à trouver des responsabilités malveillantes dans des communautés constituées, des organisations politiques ou philosophiques, ou même d'inciter à la négation de soi pour alimenter leurs l'effort de guerre. Je dis un petit peu chronologiquement, mais dit une idée qui émerge, c'est faire la révolution pour améliorer la condition humaine, pour faire de l'homme un être plus noble et plus généreux que ne peut le faire une société réactionnaire. Et ça, c'est une jeune fille qui est citée dans l'ouvrage de Renoir, une ouvrière des laboratoires qui a été rencontrée à Vincennes lors d'un meeting anti-hitlérien. Donc voilà. Donc ce film qui a été très peu vu,